j'ai été assez retourné dans mon âme tout à l'heure par le message que le Seigneur a placé sur mon cœur. Je ne sais pas comment je vais pouvoir apporter ce même message. Je pense que je ne peux pas l'apporter de la même manière. Je me méfie énormément de mes émotions humaines. Je me méfie énormément du sentimentalisme, de toutes ces choses qui sont la part humaine de notre être. Mais quelquefois, on ne peut pas résister à l'émotion qui vient de Dieu. Et à l'intensité du message qu'il peut placer sur nos cœurs et qui peut produire en nous de bonnes émotions et de bonnes réactions. Ce matin, je voudrais vous parler de la nécessité d'une relation. Et je veux vous conduire d'abord dans une première lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 3 et au verset 13. Évangile de Marc, chapitre 3, verset 13. Je vous lirai ce passage dans la version de Jérusalem. Puis Jésus gravit la montagne et il appelle à lui ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui. Il en institua 12 pour être ses compagnons. Et là, il est dit pour les avoir avec lui. Ses compagnons. Le compagnon, c'est celui avec qui l'on partage le pain. Et Jésus, maintes fois, a partagé le pain avec ses disciples. Et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Jésus a choisi. Il n'a pas choisi les meilleurs. Mais il a choisi 12 hommes. Des hommes qui avaient en particulier cette caractéristique d'être des hommes de cœur. Qui avaient un cœur. Une sensibilité, des émotions. De la simplicité. Ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur. C'est lui qui nous a choisis. Vous êtes OK avec ça? C'est lui qui nous a choisis. Et puis la deuxième référence, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Verset 17. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Nous contemplons. Je reflète ce que je contemple. Je suis à l'image de ce que je contemple. Contempler demande du temps, de l'attention. Dans cette relation avec le Seigneur, il est nécessaire d'investir du temps. Vous allez dire, mais je n'ai pas de temps. Avec le groupe des disciples, nous avons essayé de faire notre emploi du temps. 24 heures de ma vie. À ce temps, je dois soustraire ce qui est raisonnable, dormir, manger, me laver, entretenir des relations avec ma famille, mon épouse. Prendre quand même des loisirs, venir au culte. Et nous avons fait la soustraction, nous avons évalué toutes ces choses. Prendre le temps même de parler avec mes voisins, on l'a comptabilisé. Et on s'est aperçu qu'il restait plein de temps encore. Alors, on a compté le temps qu'on peut prendre pour regarder un film, une émission culturelle, etc., etc. Mais il restait encore plein de temps. Et comment ça se fait que je dis que je n'ai pas le temps ? Je n'ai pas le temps pour ce qui ne m'intéresse pas. J'ai du temps pour ce qui me passionne. Si j'ai la passion de Dieu, pourquoi ne serions-nous pas passionnés de Jésus-Christ ? Pourquoi serait-ce si bizarre d'être passionné par Jésus ? Il y en a bien qui sont passionnés par le foot, par le rugby, par le hockey, et qui consacrent des forces et du temps. Il n'est pas plus étrange d'être passionné par Jésus que par le hockey. Et je dis que c'est même plus logique d'être passionné par Jésus. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Plus je contemple le Seigneur, plus je prends le temps de cette relation, plus je suis transformé. Avez-vous besoin d'être transformé ? Si vous avez besoin d'être transformé, approchez-vous du Seigneur. Et cette contemplation se fait sans voile. Je dirais sans masque. Devant le Seigneur, on tombe le masque. À l'époque, Moïse avait un voile. Dans le temple, il y avait un voile. Le voile est ôté. La route est tracée. Le chemin est inauguré. Jésus a traversé le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Tabernacle dans le ciel, et il y a présenté son sang. Et nous sommes sanctifiés une seule fois, une fois pour toutes, par Jésus. Nous pouvons entrer librement dans le sanctuaire, dans la présence même de Dieu. Non pas une fois de temps en temps, non pas une fois par an, mais tous les jours. À tout instant, à tout moment. Connaître Dieu un peu, qui peut se targuer de le connaître beaucoup. Mais connaître Dieu un peu, vaut mieux que connaître beaucoup de choses sur Dieu. Connaître Dieu un peu vaut mieux que de connaître beaucoup de choses sur Dieu. Parce que connaître beaucoup de choses sur Dieu, ça va nourrir votre intellect, mais ça ne va pas changer votre cœur. J'ai rien contre, et j'aimerais, et j'aurais aimé, connaître l'hébreu, le grec, pour pouvoir lire l'écriture dans ces langues originel. Mais je n'ai pas pu le faire, je n'ai pas eu le temps, j'ai essayé plusieurs fois. Et je n'ai rien contre, et ceux qui peuvent le faire, tant mieux pour eux. Mais pas au détriment de la relation. Tu peux lire tous les livres qui sont édités, et il y en a de bons livres édités qui sont sur nos comptoirs de librairie. Comment devenir un bon chrétien ? Ça vous intéresse, comment devenir un bon chrétien ? Et vous pouvez savoir ce qu'il faut faire pour devenir un bon chrétien et ne pas avoir de relation avec le Seigneur. Or, la première chose du disciple, la chose fondamentale, c'est la relation. Il les appela pour être avec lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ? Qui s'est opposé au Seigneur avec virulence ? Ces hommes religieux, imbus de leur connaissance. Ils connaissaient les prophéties. Ils savaient où devait naître le Messie, à Bethléem. D'ailleurs, ils ont dit à Hérode, mais c'est à Bethléem. Ils savaient de qui ? Une vierge. Il savait qu'il serait issu de la tribu de Judas. Mais ils n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel. Ils n'ont pas reconnu l'envoyé de l'Éternel. Comme quoi on peut connaître les prophéties, connaître la doctrine et avoir un cœur sec. Parce que mon cœur est changé dans cette relation avec le Seigneur. J'ai besoin de cette relation. Qu'est-ce qu'un croyant ? C'est un disciple. Ce n'est pas celui qui croit. Ce sont les disciples qui ont été appelés chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens qui ont été appelés disciples à Antioche. C'est quand on a vu les disciples qu'on les a appelés chrétiens. Par dérision, par moquerie. Les petits Christ, ceux qui se prennent pour Jésus-Christ. Ceux qui veulent faire comme lui, ceux qui veulent l'imiter. Dieu ne connaît qu'une église, celle qui est composée de disciples. C'est pourquoi l'église de Jésus-Christ n'est pas une église d'une domination, d'une dénomination. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas les ADD, Assemblée de Dieu. L'église de Jésus-Christ, comme elle est composée de disciples, et là, moi, je me garde de vous juger, je ne vous connais pas. Il n'y en a qu'un seul qui le sait, c'est le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins. Elle est invisible. L'épouse, celle qui va être introduite dans le ciel, elle n'est composée que de disciples. Ce n'est pas l'Église qui est enlevée, c'est l'épouse. Est-ce que vous êtes l'épouse ? Il y a un mariage qui se prépare. Et l'épouse, il faut bien qu'elle connaisse l'époux. Comment peut-on se marier ? Parce que ce n'est pas un mariage forcé. Ce n'est pas un mariage arrangé. C'est un mariage d'amour. Et si vous n'aimez pas le Seigneur, comment allez-vous pouvoir rentrer dans l'intimité de l'époux ? Enfin, la moindre des choses, quand on a l'intention de se marier, c'est de connaître celui avec qui on se marie. Avant. Parce qu'après, c'est un peu tard. Alors, le Seigneur te propose une relation. Un cœur à cœur. Il te propose une histoire d'amour. Il nous propose une histoire d'amour. Quand je découvre combien Jésus m'aime, je me dis, c'est pas possible. Et tu m'aimes encore. Oui. C'est une histoire passionnée qui a conduit notre maître jusqu'à la croix, jusqu'à donner sa vie. Et si l'amour ne se dit pas seulement, car on peut en douter, l'amour se prouve. Et si l'amour se prouve, alors nous avons bien les preuves de cet amour lorsque je regarde à la croix. La relation est le principe même de la vie du disciple. La communion, ce n'est pas un bout de pain. On entend quelquefois dire, j'ai pris la communion. Mais la communion, ce n'est pas un bout de pain. C'est un élément de la relation. Communion, c'est commune, union. Ce mot vient du latin cognoscere, qui veut dire fréquenter, fréquenter, fréquenter le Seigneur, qui veut dire aussi apprendre à connaître le Seigneur. Comment on apprend à connaître quelqu'un ? Dans les moments faciles, tout baigne, tout réussit, les fins de mois sont heureuses. On a tout ce qu'on veut, on est dans le confort. Ah, j'ai un conjoint extraordinaire. Puis pof, la maladie, l'épreuve, la difficulté. Oula, quel est cet étranger auquel j'ai lié ma vie ? C'est dans la difficulté qu'on apprend à connaître. C'est dans la difficulté que j'ai appris. Le Seigneur m'a appris, dit Paul. Plusieurs fois, il dit, le Seigneur m'a appris. Il lui a appris comment ? Dans la difficulté. J'ai tellement appris dans la difficulté. Tellement appris. Mais je n'ai pas tout appris. J'ai encore à apprendre, à connaître, à découvrir. Voyez, Jésus chez Marthe et Marie. Marthe court d'un endroit à un autre, etc. Et puis à un moment, elle n'en peut plus. Elle dit, Seigneur, tu ne peux pas dire à ma sœur de m'aider un peu. Et Jésus lui dit, mais Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas ôtée. Puis il lui dit, tu t'agites, tu t'inquiètes pour peu de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie, elle est là au pied du Seigneur. Et elle boit ses paroles. Et rien que sa présence, vous avez remarqué qu'il y a des gens qui vous apportent la paix. Et puis il y en a d'autres qui vous font monter au cocotier, quoi. Vous dites, mais pourquoi ? Quand on est au pied de Jésus, sa paix vient remplir notre cœur. Et justement, j'en ai besoin de cette paix dans ce contexte actuel. Il y a un an, nous n'aurions jamais pensé être encore dans la même situation. Premier confinement, deuxième confinement, troisième confinement. Et la suite, on ne sait pas. Et qu'est-ce qu'on apprend pendant ce temps ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Vous avez appris qu'on peut recevoir les cultes à la maison, en Zoom. C'est sympa, hein ? Ben tant mieux, c'est mieux que rien. Mais bon, rien ne vaut un culte en présentiel, quand même. On est bien entre nous, non ? Même si on ne peut plus s'embrasser, se serrer la main. Moi, rien que de vous voir, je suis content. Quand je vois Olivier, je suis content. Alléluia, il est toujours là. Amen. Et quand je vois mon électricien préféré, Francis, je suis content. On a partagé des tas de choses ensemble. Marie a choisi la bonne part. Dans son attitude d'humilité au pied de Jésus, dans cette disposition toute simple faite de proximité, d'ouverture de cœur pour écouter Jésus. Cela ne veut pas dire que nous devions être tous des contemplatifs. Heureusement qu'il y a des Marthe pour faire la cuisine et le ménage. Mais même les Marthe doivent prendre le temps de la relation. Le temps de s'arrêter. Et je le disais tout à l'heure, c'est une véritable bagarre quotidienne pour ne pas se faire voler le temps qui appartient à notre Dieu. Apprends-moi à compter nos jours, Seigneur. Dans l'Épître aux Romains, il est dit « racheter le temps ». Ça commence déjà à ne plus le dépenser. Mais racheter le temps. Prendre le temps. C'est une bagarre. Il y a des fois, il m'a semblé que j'étais arrivé. Ah, ça y est, j'y arrive. Et puis, il arrive un événement, pop, 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 pop. On s'aperçoit que rien n'est acquis. C'est une lutte quotidienne que de prendre le temps de se mettre à part, de rentrer dans le lieu secret, parce que là, dans le lieu secret, ton Père t'attend, d'éteindre notre portable ou de le mettre en sourdine, d'éteindre notre ordinateur, d'éteindre la télé, d'éteindre tout ce qui peut nous distraire. De dire à nos enfants, de dire à notre mari, hop, je ne suis pas là, je ne suis plus là. Pendant demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, vivez sans moi. Vous pouvez respirer sans moi. Vous avez besoin de quelque chose, vous allez le prendre, je ne suis pas là. Et l'on se tient. Et l'on reste fermement. Parce qu'enfin, ceux qui nous entourent ne sont pas bêtes. Lorsqu'ils nous voient sortir de notre chambre, de notre bureau, je dis, tiens, il a changé. Hein. Je ne sais plus qui, c'est à toi que quelqu'un a dit que le fiston, lorsque sa mère sortait de sa chambre après son temps de prière, disait à sa mère, eh ben, maman, tu as changé. Hein. Parce qu'alors, tout à l'heure, hey, c'est un beau témoignage. Je rentre dans la chambre, j'entre en relation avec le Seigneur. Et c'est quoi la relation avec Dieu? C'est quoi? Comment vous faites? Expliquez-moi. Eh bien, déjà, la relation avec Dieu, c'est la contemplation. Je contemple le Seigneur. Je rentre avec un verset dans mon cœur, j'ai lu quelque chose, et je suis là, et je contemple. Puis, la relation, c'est l'adoration. Oh. J'ai vu un court reportage sur une peinture qui a été découverte et que l'on attribue à Léonard de Vinci. Les uns disent c'est lui, les autres disent non, c'est pas lui, mais il y a contribué. Enfin bref, ça s'est vendu des millions d'euros. Et ce tableau a été exposé. Et on a mis une caméra en face. Et vous voyez les gens. Ce tableau s'intitule Le Sauveur du Monde. Et il a été acheté par un musulman. Allez comprendre. Mais peut-être que dans le secret de son cœur. Enfin. Et alors tous ces gens qui, tout à coup, ce n'est qu'une peinture qui représente, selon l'imaginaire du peintre, le sauveur du monde. Et vous avez les gens là, les yeux ouverts, la bouche ouverte, rien ne sort. Parce qu'on ne trouve pas les mots. On ne trouve pas les adjectifs. Une fois que vous avez dit, oh, que c'est beau. Et vous voudriez dire tellement d'autres choses. C'est ça l'adoration. Vous êtes devant le Seigneur. Nous avons entendu parler d'un frère qui est mort 3 jours. Au bout de 3 jours, il est revenu. Il était dans la chambre froide. Il est revenu. Et il a dit, j'ai vu des choses. Mais je ne peux pas en parler. Je ne peux pas en parler. Mais c'est beau. L'adoration, c'est beau. Seigneur, tu es beau. Et une fois qu'on a dit ça, on ne peut plus rien dire. C'est ce que le Seigneur est. Et puis la louange qui suit, c'est ce que le Seigneur fait. Seigneur, je te loue parce que tu m'as béni, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné, tu me secours, tu me soutiens, enfin, etc., etc. La relation, c'est aussi confession. Je confesse, Seigneur, si tu n'étais pas mon avocat, si ton sang précieux n'était pas sur moi, je ne pourrais pas accéder au trône de la grâce. Je confesse que je ne suis rien, qu'il est tout. Et je confesse mon péché, ma misère, mes désobéissances, mes résistances, mon orgueil. Alors tout à l'heure, j'ai ouvert un petit coin de mon intimité avec le Seigneur. Et j'ai dit que à la fin du premier confinement, nous avons reçu cette pensée du Seigneur. Et je l'ai partagée avec mon épouse, qui l'a aussi partagée avec moi. Recevoir l'intelligence des temps pour savoir ce que l'on doit faire. Je vous en ai parlé une fois. Puis cela nous a conduit dans le livre de Daniel. Daniel cherche à comprendre. Le mot comprendre qui revient. Daniel est dans une situation, il cherche le sens. Il cherche à comprendre. Je ne sais pas si vous cherchez le sens de la situation, de cette mondialisation d'un virus. Et cela le conduit, et je n'ai pas eu le temps de vous en parler, je vous en parle un peu maintenant, cela a conduit Daniel à s'humilier. Au point où un ange lui est envoyé qui lui dit « Depuis que tu as cherché à comprendre et que tu t'es humilié, je suis venu vers toi. » Quand on cherche l'intelligence des temps, on ne sait pas ce qu'on demande parce que ça risque de nous mener un peu loin. Mais bon, je dis « Seigneur, tu fais ce que tu veux. » Et à s'humilier. Et je suis rentré, poussé par le Seigneur, dans ce temps d'humiliation. Je me suis humilié personnellement et je me suis humilié collectivement. Daniel, qui est un garçon sans reproche, une vie spirituelle, impeccable, un homme de Dieu, un prophète, dit « Nous, nous avons péché. » Il est solidaire avec son peuple, Israël. S'ils sont en captivité, c'est à cause d'eux, de leur désobéissance, de leur résistance, de leur idolâtrie, de leur cupidité, etc. etc. Et Daniel dit « Nous avons péché, nous aussi, nous là. » Et ça va durer pendant des jours et des jours, quasiment tout le chapitre 9 et une partie du chapitre 10 nous relate cette humiliation dans le détail. Il est solidaire. Et je ne peux pas me désolidariser de ma nation, de ses erreurs, du péché. Je ne peux pas me désolidariser, excusez l'expression, mais je n'en trouve pas d'autre. Elle n'est pas juste, mais ça ne fait rien, vous comprendrez ce que je veux dire. Du corps pastoral. Nous avons manifesté de l'orgueil, de la suffisance. Nous avons exclu. Nous sommes entrés dans la rivalité, dans la jalousie. Nous nous sommes calculés combien de baptêmes tu as eu. Etc. Nous avons couvert le péché. Seigneur, pardon. Pardon pour mes frères. Et pardon pour moi. Je suis solidaire. Je me suis humilié pour l'Église, pour la tiédeur, pour l'habitude, la religiosité. Un jour, deux jours, trois jours, je pensais avoir tout dit au Seigneur. Quatrième jour, ah, il y a encore ça. Oh, je ne m'en étais même pas aperçu. Seigneur, pardon. Nous avons condamné d'autres mouvements évangéliques en disant oh, « on est meilleur qu'eux, parce que nous, on est remplis du Saint-Esprit. » Ils nous ont rendu la monnaie de la pièce. Mais ça, c'est leur problème. Moi, mon problème, c'est d'avoir jugé d'autres moins spirituels que moi. Et pendant des jours, et encore aujourd'hui, il m'arrive de pleurer devant Dieu. Et de lui demander pardon. nous sommes au troisième confinement. Qu'a produit les deux premiers dans nos cœurs? Qu'a produit ces situations-là où nous avons été privés de nos libertés fondamentales? Oh, ça a été chouette, on a pu faire tout ce qu'on n'avait pas pu faire avant. J'ai mis de l'ordre dans ma cave, j'ai arrangé ma gouttière, mon toit, j'ai fait ci, j'ai fait mi. Ouais. Et avec le Seigneur, qu'est-ce que ça a produit? Seigneur, arrête cette pandémie. Seigneur, arrête ce virus. Seigneur. Puis, oh, chouette, hein? Il y a un vaccin. Ouf, on est sauvé, on a un vaccin. Enfin, plusieurs vaccins. Oui, mais on commence à nous dire, de temps en temps, comme ça, il y a des moments de vérité chez nos grands. Parce qu'on se doute qu'ils ne nous disent pas tous la vérité. Et tout à coup, ça échappe. Oui, mais de la bouche du ministre de la Santé, M. Véran, oui, mais ce vaccin ne nous protège pas de la transmission. Et il se pourrait bien que dans 6 mois, nous soyons obligés de nous revacciner parce que il y a des mutations. C'est normal chez les virus, ils mutent. Donc ça va devenir une habitude de vaccin. Seigneur, où es-tu? Où tu es, Seigneur? Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Et Seigneur est là et il est en droit de nous dire, vous êtes humilié? Ah oui, mais c'est eux, Seigneur, hein? C'est le péché du monde. C'est la mondialisation de nos échanges. C'est eux qui ont saccagé la terre. C'est la conséquence des excès des hommes. Ah oui, et toi, qu'est-ce que tu es? Un ange? Ouais, moi. Seigneur, pardonne-moi. J'ai contribué à tout ça. T'as vu, Seigneur? Ils ont renié les racines chrétiennes de l'Europe. Tu vois, ce président Chirac, c'est lui qui a obligé. Ah oui? Et c'est qui l'a élu? Jacques. Oui, c'est vrai, c'est moi. T'es solidaire? Oh, je suis outré devant l'exploitation des enfants. Ces usines au Bangladesh, en Inde. Et quand je vais chez H&M, ah, ce petit polo, il n'est pas cher, hein? Je l'achète, ah, pour 3 francs 6 sous, ça vaut le coup. Tu contribues à l'exploitation des enfants. Tu contribues à l'injustice. Quand je vois tous les réfugiés rentrer, un jour le Seigneur m'a poussé à demander pardon à un Africain dans mon bureau, réfugié. J'ai demandé pardon. Je te demande pardon pour ma nation. Où voudrais-tu être en ce moment? Il me dit, je voudrais être dans mon pays, gagner ma vie normalement, pouvoir nourrir ma famille. Mais je ne peux pas, donc je suis venu ici. C'est le résultat de la politique. Je suis responsable. Pardon, Seigneur, pardon. La confession. L'Église doit rentrer dans cette période d'humiliation, de repentance. Vous attendez que le monde se repente, mais la repentance, elle doit commencer par ici. Comment peut-on attendre d'hommes et de femmes dont l'intelligence est aveuglée? Alors, ça doit commencer par moi. Par chacun de nous, dans les larmes, dans la douleur. Ça peut prendre des jours. Daniel a passé 3 semaines dans un jeûne. Il n'était pas total. Mais il s'est privé de choses essentielles. Et pendant 3 semaines, il a confessé. Comme quoi, sans s'en rendre compte, on en amasse. Des erreurs, des injustices, des méchancetés, des critiques, des calomnies, des convoitises. Quel nettoyage dans ma relation avec Dieu, quel nettoyage. Et puis dans cette relation, je refais alliance avec le Seigneur. Et je remets ma vie sur l'autel. Et je disais tout à l'heure, l'autre jour au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je vais faire 76 ans, et je peux dire maintenant, oh, comme disent mes frères arabes, khlas, khlas, ça veut dire assez. Rentre dans ton repos, profite de la vie, profite de ton bel appartement, de ta maison, de cette région. Et j'ai dit non, Seigneur, je replace ma vie sur l'autel. Parce que tu as préparé de bonnes œuvres pour moi jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, je veux être un ouvrier. Jusqu'à être l'ouvrier de la 11e heure. Nous devons nous humilier pour notre manque de sensibilité à la misère. À l'extérieur de l'Église. Dieu est ému de compassion, son amour. Ne peut lui faire accepter que des millions périssent. Il veut sauver encore. Si j'ose une image, je dirais qu'il est écartelé entre son désir de mettre un terme à cette misère, à tous ces excès, à toute cette méchanceté, cette injustice, etc., en revenant, et son désir de sauver. Il ne veut pas fermer la porte encore. Une fois que la porte sera fermée, ce sera trop tard. La porte de la grâce est encore ouverte. Seigneur, ah oui, reviens, mais une dernière moisson, s'il te plaît. Une dernière moisson, Seigneur. Une dernière moisson. Seigneur, il n'est pas dans ta volonté que les hommes périssent. Tu veux que les hommes soient sauvés. Mais je me dis que si le Seigneur envoie une dernière moisson, l'Église n'est pas prête. Nous sommes tellement bien installés à Babylone, dans la facilité, dans le confort. On a tout. On n'est pas prêt à sortir de nos zones de confort, de tranquillité. Où sont les ouvriers de la 11e heure ? Où sont-ils les ouvriers de la 11e heure ? Voulez-vous être ces ouvriers de la 11e heure ? Dans cette relation avec Dieu, je supplie, je fais comme Abraham, comme Moïse. Non, Seigneur, non, retiens ta main. Non, Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire de toi ? Seigneur, s'il y a 50 justes, détruiras-tu la ville ? S'il y en a 45, non, le Seigneur dit à chaque fois, non. S'il y en a 10, détruiras-tu la... Non, Seigneur. L'intercession. Les entrailles de miséricorde. Je prie chaque jour, je dis peut-être, Seigneur, en ce moment, il y a quelqu'un qui a tout préparé pour se suicider. Quelqu'un qui est sans espoir, sans avenir. Il y a un commerçant de cette ville de Gap. Quand on se promène dans la ville de Gap, quelle tristesse. Mon épouse me disait ça l'autre jour. Il y a une tristesse dans la ville de Gap. Il y a une tristesse dans la rue Carnot. Des magasins fermés. Liquidation. Il y a des gens qui sont dans une profonde détresse. Et l'Église chante, Alléluia, je suis sauvé, tu reviens bientôt. Pas au détriment de la perte de notre ville, de notre génération, de notre nation. Seigneur, l'Église doit crier de plus en plus fort, Seigneur. Et il faut qu'elle se prépare. Et dans cette relation, je reçois des dons. Je reçois des ministères. Je reçois un ministère qui va être utile auprès de ceux qui vont arriver et qui vont être dans un état mais lamentable. Des homosexuels, des transsexuels, des ceci, des cela. Et j'en passe. Allons-nous être comme le fils aîné? Pour lui, tu tues le veau gras? Lui qui a dépensé tout ton argent en vivant avec des prostituées? Et moi? Et moi qui t'as obéi à la lettre, qui fais toujours ce que tu veux? Et moi, tu ne m'as jamais donné? Ah oui, ben, il fallait te servir, parce que tout ce qui est à moi est à toi. Surtout, ne ressemblons pas à ce fils aîné. Seigneur, donne-nous des entrailles de miséricorde. Je veux participer, Seigneur, à la guérison, à l'accueil, à l'écoute de ceux qui vont venir. Il y a de plus en plus d'églises où ce message est proclamé. Il y a un côté prophétique. Je ne me place pas en tant que prophète devant vous, je ne sais pas si j'en suis un. Je fais passer ce que j'entends, ce que je reçois, ce que je comprends. Et je vous dis que les temps qui vont venir vont être plus terribles que celui-là. Ça fait un an que l'on fait fonctionner la planche à billets. Ça fait un an que les États s'endettent, le nôtre en tête. Ça fait des mois que l'on maintient sous oxygène notre économie. D'un autre côté, la bourse atteint des sommets incroyables, comme quoi le produit de l'argent est supérieur au produit du travail. L'être humain ne compte plus. Le résultat de la mondialisation, c'est l'exploitation de l'être humain. Et vous croyez que ça va durer? Et vous croyez que ça va tenir? La bulle, elle gonfle. Et à un moment, elle va exploser. Et nous allons revenir devant la perte de travail, vers la diminution des retraites, etc. La Grèce a connu cela. Et d'autres pays sont menacés. Nous allons revenir à cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, etc., etc. Nous allons devoir nous attendre à ce Dieu quotidien. Tant la précarité va être notre lot. Vous allez dire, c'est pas possible. C'est un prophète de malheur. Comment ? Vous aviez pensé que ça serait possible que l'on nous enferme chez nous, qu'on nous interdise de sortir à plus d'un kilomètre de la maison, que l'on décrète un couvre-feu à 18 heures? Vous aviez pensé que c'était possible? Non, moi, pas du tout, pas un seul instant. On nous prépare des lois de plus en plus terribles. Ouvrez les yeux, mes sœurs. Dans la relation avec Dieu, je reçois l'intelligence, la vision de Dieu, la pensée de Dieu. Non pas pour me terroriser, m'apeurer, m'angoisser, mais pour, au contraire, m'amener à cette tranquillité, à cette paix. Il est le Dieu de la paix. La paix, elle ne vient pas d'en bas, la paix, elle vient d'en haut. Être en paix au sein de la tempête. Il nous faut cultiver cette relation. il vous faut la cultiver plus que jamais. Je dois avouer que je n'ai jamais été aussi près du Seigneur que depuis ces dernières semaines. Je n'ai jamais passé autant de temps dans la prière. Il faut continuer. Il faut continuer. Même si l'on vainc ce virus, je ne pense pas que nous retrouverons ce que nous avons, ce qui nous a été subtilisé. C'est fini. Il faut passer, tourner notre page. Mes frères pasteurs doivent concevoir une autre façon de servir, de paître le troupeau. Il faut de l'ingéniosité. La banque alimentaire risque de devoir servir. Il y a des églises qui ont déjà mis en place une économie parallèle. Et on invite les chrétiens à réduire un petit peu leur consommation alimentaire pour pouvoir donner à la banque alimentaire. Il y a toute une stratégie, il y a toute une ingéniosité dans la relation avec Dieu. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Sortez de tous les codes, de toutes les façons de faire que Dieu nous ouvre, qu'il nous donne sa vision, sa pensée. Je termine. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Les messages aux églises de l'Apocalypse, mis à part une, et celui-ci, repens-toi. La dernière église se sent riche. Puisque tu dis « je suis riche », puisque tu dis « je vois », puisque tu dis « je suis vêtu » et tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois. Repends-toi, Église du Seigneur, repends-toi. Repentons-nous ensemble. Humilions-nous devant le Seigneur pour qu'il nous fasse grâce, pour que nous puissions connaître cette dernière moisson, pour que nous puissions être acteurs dans cette dernière moisson et non pas spectateurs. Que ceux qui entreront ne nous poussent pas dehors et que nous restions là avec eux, pleurant avec eux, intercédant pour eux, partageant avec eux le peu que nous aurons et que le Seigneur nous aidera à partager. Voici le dernier verset, Jacques chapitre 4, versets 5 à 10. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Il écrit à des chrétiens, à l'Église. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Chacun reçoive ce message dans son cœur et que cela le conduise à se placer et à retrouver la relation avec Dieu qui ne peut que commencer que par une repentance profonde. Repentez-vous, dit le Seigneur, dit l'Esprit. Amen. Mon esprit, toi qui as été capable de réveiller le cœur d'un roi, Cyrus, combien plus forte raison es-tu au milieu des tiens dans la capacité de réveiller nos cœurs ? Nous sommes tendus vers toi, nous regardons à toi et nous voulons revenir dans cette relation, Seigneur, pardon. Pendant toute une période, cette relation a été négligée. Je l'ai négligée, Seigneur. Pardon. Pardon. Pardon pour mes erreurs. Pardon. Pour mon péché. Pardon, Seigneur. Et pardon pour ce monde. Pardon pour ma nation. Pardon pour ma ville. Pardon pour mes dirigeants. Pardon pour l'impénitence, le refus de se repentir. Seigneur, souffle. Souffle sur nous ce matin. Et ne cesse plus de souffler sur nos cœurs. Ne cesse plus d'appuyer, Seigneur, ce message de repentance, d'humiliation. Jusqu'à ce que nous ayons retrouvé une parfaite communion, relation avec toi. Jusqu'à ce que nos cœurs soient sensibles à nouveau à la misère de ce monde qui ne te connaît pas. Jusqu'à ce que nous nous mettions à l'œuvre et que nous te disions, sers-toi de moi, Seigneur, là où tu veux, quand tu veux, pour ce que tu veux. Amen.